Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et la famille qui se réunit jusqu'à 17h chaque après-midi, Julien Marion, les équipes web de BFM Bourse, bfmbourse.com, il est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour Guillaume.
Ça va ?
Pour les gens qui nous écoutent à la radio, j'admire Guillaume sous un angle nouveau.
Oui, puisque vous êtes d'habitude à ma gauche, vous êtes cet après-midi à ma droite.
Tout à fait.
Effectivement, ça fait quoi ?
Ça change un peu.
Mieux ou...
Non, je plaisante.
C'est vrai que certains invités ont un profil privilégié. Mais je préfère être assis à droite ou à gauche du président. On ne dira pas qui. On le gardera pour nous. Bon, du côté des marchés, il est beau le marché, hein, sous tous les profils, sous tous les angles. En l'occurrence, notre CAC 40 s'est même offert il y a moins d'une heure un nouveau record historique à combien ? 8230 points.
Oui, il a un nez Cyrano de Bergerac qui ne cesse de s'allonger. Oui, en fait, on progresse quand même très calmement. Il y a pas aujourd'hui, c'est quand même une journée de transition et c'est même une semaine de transition, à pas se mentir, avec le vendredi saint qui arrive. Il y a le PCE vendredi, mais le marché sera fermé. Il y a quelques indicateurs d'inflation demain et ça devrait tout. Ouais. Et heureusement qu'on a quelques entreprises étrangères comme H&M que vous avez évoqué juste avant, hein, qui carburent à Stockholm. Sinon, ça reste quand même très mesuré, les volumes, comme les variations.
Alors on a eu des chiffres d'inflation en Espagne, elle réaccélère un peu l'inflation en Espagne, mais moins qu'attendu, puis la Banque de Suède, sans surprise, choisit le statu quo. Elle ouvre la porte néanmoins, la Banque de Suède, à une première baisse de taux, pourquoi pas, on verra, pourquoi pas, dès le mois de mai. Ce sera à suivre, bien évidemment. En tout cas, nouveau record sur notre CAC 40, ça fait plaisir, même si la séance est calme, hein, comme tous ces derniers jours, comme toutes ces dernières séances, on progresse d'à peine 0,3%, mais ça nous a permis de toucher un nouveau plus haut historique. C'était il y a à peu près une heure. Romain Dobry est avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain. Quels signaux ce record du jour sur le CAC 40 envoie-t-il pour la suite ?
Bonjour. Eh bien, pas de signaux très forts, effectivement. Ce qu'on regarde du côté des intérêts, c'est qu'encore une fois, il n'y a aucun intérêt qui se déclare depuis toujours l'échéance des marchés dérivés du mois de mars. On a progressé hier de 0,40% sur l'Eurostock, 0,41% sur le CAC 40, et la position ouverte, le nombre de contrats futurs a diminué. C'est-à-dire que la hausse se fait faute de vendeurs, faute de pression baissière, et on le voit, les volumes le traduisent aussi, même si sur le S&P on peut noter un tout petit peu une légère pression baissière hier dans un mouvement de baisse, c'est moins rayonnant du côté des indices américains depuis quelques jours, 3-4 jours sur le S&P, une quinzaine de jours sur le Nasdaq où c'est un peu décousu. Mais du côté des intérêts, la moyenne du nombre de contrats futurs traités sur le CAC 40, c'est à peu près 60 000. La progression d'hier, elle s'est faite avec 35 000 contrats futurs. Là, en ce moment, on progresse aussi aujourd'hui, mais avec 26 000 et 27 000 contrats futurs traités à l'instant, et c'est pas beaucoup. Donc, il n'y a pas vraiment de soutien dans ce mouvement-là, c'est plutôt un peu un mouvement qui se fait faute de vendeurs et les marchés sont un peu happés dans un trading range, c'est plutôt des algorithmes qui traitent ça. Puis il faut dire qu'effectivement le moment était peut-être un peu propice à une prise de bénéfice puisque vous l'avez dit, il y a effectivement ce week-end prolongé avec le week-end de Pâques, férié à Paris et aux États-Unis vendredi et férié aussi lundi à Paris. Et puis, il y a le fait qu'il y aura demain la dernière séance du trimestre du mois de mars, et que c'est aussi le terrain d'équilibrage de position de fin de trimestre sur des fonds équilibrés, justement. Et donc ça peut créer des mouvements un petit peu d'ampleur. Mmh. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que l'indice PCE donc d'inflation va être publié vendredi, alors que les marchés seront fermés. Peut-être de quoi être un peu prudent avant ça.
Effectivement, un peu prudent, mais ça n'empêche pas le marché de progresser. On a le sentiment que par défaut, le marché choisit à chaque fois de progresser. Alors on disait le marché est plutôt prometteur, sympa, accommodant sous tous les angles. C'est pas si vrai que ça. Les volumes sont pas très élevés, la volatilité reste faible, et même si on a un nouveau record du CAC aujourd'hui, Romain, sur les 10 dernières séances, le CAC ne fait rien, pas plus de 129 points d'écart entre le plus bas et le plus haut sur les 10 dernières séances pour le CAC 40. C'est l'écart 10 séances le plus faible sur le CAC en quasiment 4 ans.
Effectivement, donc ça aussi, c'est dire qu'il y a une absence de densité, absence d'intervenants. Encore une fois, on a du mal à recréer de l'intérêt sur des points hauts de marché, et on attendrait peut-être des replis pour rentrer dans ce marché. En contrepartie, il n'y a pas de vendeurs, on n'a pas de pression baissière du tout, et donc c'est pour ça qu'on a ce sentiment de lévitation un peu. Alors le fait est que effectivement il y a peu de volume, il y a aussi un peu de divergence, pas des fonctionnements synchronisés entre les différents indices. Alors aujourd'hui, le CAC 40 a formé un nouveau plus haut historique. historique, mais ça fait plusieurs jours que lui ne faisait plus rien, hein, depuis maintenant le 13 mars dernier, alors que le DAX et l'Eurostox marquent des nouveaux plus hauts tous les jours. Puis sur les indices américains, ça patine depuis une dizaine de jours sur le Nasdaq, même si on a formé un peu des nouveaux plus hauts, mais c'est assez décousu, et sur le S&P depuis quelques séances. Donc c'est, il y aurait peut-être besoin de resynchroniser tout ça. Mm-hmm. Pour l'instant, sur le futur CAC 40, on évolue dans un trading range un petit peu élargi, c'est 8146 en bas, 8242 en haut. Il faudrait clôturer au-delà d'une de ces bornes pour considérer une réactivation d'une tendance franche. Ça n'est pas le cas pour l'instant, donc on reste toujours assez neutre. La médiane, c'est 8194. Si on passe en dessous, eh bien le biais est plus baissier. Tant qu'on reste au-dessus, c'est un petit peu plus haussier en intraday.
Bon, beaucoup de points hauts aujourd'hui, beaucoup de records. Le CAC 40, on le disait. Le DAX aussi est sur un nouveau plus haut historique. La bourse de Milan également est sur un nouveau plus haut historique. L'Eurostock 50 est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Et l'Eurostock 600 aussi est sur un nouveau record. Voilà la séance du jour résumée, même si les variations reste relativement faible. Du côté des différentes classes d'actifs et des valeurs, vous avez repéré Sanofi. Sanofi qui gagne aujourd'hui 0,6%. Quel potentiel technique, de votre point de vue, sur cette valeur Sanofi ?
Il y a encore éventuellement une dizaine de pourcents à prendre à la hausse. Comme vous l'avez compris, ce marché qui flotte un peu en absence de volume nous laisse à penser qu'il peut y avoir des trous d'air. Il n'y a pas de retournement de tendance, pas de choses méchantes, mais un petit peu de prise de bénéfice, pourquoi pas, à court terme, et des marchés qui pourraient, bien, en étant un peu complaisants, retracer. Donc on va prendre des valeurs un peu défensives. Or, Sanofi, bien, elle a bien réagi sur le bas de son canal haussier de long terme à 81,79. Alors, c'est un peu loin maintenant, elle cote 91,84 à l'instant, mais elle a un parcours haussier propre et elle s'approche de sa résistance majeure à 93,35. Pardon. Si elle déborde ce niveau, elle a un potentiel aussi assez intéressant pour aller chercher la zone 101,50, 104,30. On va privilégier ce genre de titre pour l'instant et avoir une part de cash dans les portefeuilles pour bien se replacer éventuellement dans les jours ou semaines qui viennent, si le marché veut consolider un peu.
Sanofi, donc, merci beaucoup Romain. Romain Daubry avec nous, puis Bourse Direct. On vous retrouvera à la clôture des marchés. Puis aussi dans l'univers de la santé, une valeur sur un plus haut historique, un record, Merck. Oui, il n'y a pas que les GAFAM qui soient sur des records. Merck aussi est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui, plus 4%, puisque la FDA approuve le Winrevair contre, c'est un traitement en fait, contre l'hypertension artérielle pulmonaire. Chaque injection, $14,000. $14,000 l'injection.
C'est beaucoup de Merck & Co, hein, j'imagine.
Effectivement. Et ce sont des marges à venir pour Merck. Le titre donc sur des plus hauts historiques cet après-midi à Wall Street, dans une séance qui se passe bien aussi là-bas. On suit aussi le secteur bancaire. Alors ça, vous y consacrez d'ailleurs un article, vous y consacrez même plusieurs articles depuis plusieurs jours, Julien, sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com, parce qu'on assiste depuis quelques séances à une véritable bataille d'analystes autour du secteur bancaire. Énormément de changements de recommandations sur le secteur en ce moment.
Oui, un grand ménage de printemps. Moi, je vous propose d'y aller banque par banque, en fait.
Allons-y banque par banque, alors. On va démarrer peut-être par la Société Générale, dégradée Société Générale par Deutsche Bank, qui passe aujourd'hui d'achat à conserver.
Oui, et d'ailleurs, en fait, Morgan Stanley avait fait à peu près le même cheminement lundi. La terminologie diffère, mais l'idée, c'est la même. En fait, les deux banques font à peu près le même constat sur Société Générale. Elle a, ça va pas assez vite sur la cession d'actifs, tout simplement. Société Générale, si vous voulez, il pèse en fait la possibilité de vendre des actifs non core, hein, pas essentiels à leur activité. Ils sont entrés en négociation exclusive fin d'année dernière pour vendre des actifs dans plusieurs pays africains. Mais en fait, si vous regardez, il y a eu plein d'informations de presse qui parlaient de plein d'autres transactions potentielles. On parle de banques privées au Royaume-Uni, en Suisse, d'une filiale allemande ou encore des métiers de titres. Mais officiellement, ça bouge pas beaucoup. Donc pour eux, il n'y a pas de raison d'aller à l'achat. Et en plus de ça, il y a les cessions actives, mais en plus, il y a l'opérationnel. Et pour Deutsche Bank, il faut attendre encore 15 à 18 mois avant de voir des signes tangibles de redressement chez Société Générale via quelques leviers. Par exemple, vous savez, la fusion des banques des réseaux de banques de détail, vous savez, il y avait Société Générale et Crédit Nord, ils les ont fusionnés. Ou encore la montée en puissance de Boursorama, leur banque en ligne.
Société Générale, donc, et Deutsche Bank qui dégrade d'achat à conserver. On peut aussi dire un mot du Crédit Agricole. Là aussi, bataille d'analystes, et c'est absolument dingue. Mmh. Sur le Crédit Agricole, Deutsche Bank passe à l'achat alors que Morgan Stanley passe à sous-pondérer.
Oui,
donc vendre.
Ouais. Oui, exactement. Vendre. Bon, allez, côté face, il y a Morgan Stanley qui vous dit... Bon, Crédit Agricole et ça, le problème, c'est que c'est pas si cher que, c'est assez cher, en fait. C'est dans la moyenne européenne, certes, en termes de ratio de bénéfices. Sauf que Crédit Agricole et ça, en fait, ça rend moins de cash aux actionnaires. Juste une parenthèse, Crédit Agricole et ça, pourquoi ils font pas de buyback et de rachat d'actions? Parce que, en fait, ils sont détenus à 60% par les caisses régionales et que si vous faites de rachat d'actions, vous diminuez la liquidité et donc le flottant. Et ça, ils veulent pas. Oui. Donc ça, c'est un handicap pour eux. Donc, en gros, la banque est pas assez bon marché pour eux. Il y a mieux à faire ailleurs. Ça, c'est pour Morgan Stanley. Mais après, il y a le côté pile. Deutsche Bank me dit qu'actuellement, vous allez avoir des baisses de taux directeurs et qu'en fait, il y a une conjoncture qui s'améliore un peu. Et pour eux, Crédit Agricole et ça, ils ont le mix d'activités idéal pour briller dans ce contexte, parce qu'ils ont des métiers très diversifiés et pas très gourmands en capitaux. 40% de leurs bénéfices, c'est des métiers asset light. Alors, ça veut dire quoi les métiers asset light en banque? C'est l'assurance, la gestion de fortune, dans laquelle ils se sont d'ailleurs renforcés en rachetant une belge qui s'appelle The Groupe Peter Kam, ou encore la gestion d'actifs. Et en plus de ça, Deutsche Bank nous dit, CASA, ils devraient, Crédit École et ça, devraient dépasser leur objectif de bénéfice. Ils veulent faire 6 milliards en 2025. Deutsche Bank pense qu'ils feront 6,5 milliards.
Et Deutsche Bank qui passe donc à l'achat sur Crédit Agricole, tandis que Morgan Stanley, au contraire, passe à sous-performance, ou sous-pondéré, pour être très précis dans la terminologie de Morgan Stanley. Alors, que choisit le marché? Il choisit plutôt l'opinion de Deutsche Bank, puisque ce titre Crédit Agricole aujourd'hui progresse de 0,5%. On n'a pas parlé de BNP Paribas, pourtant il y a des opinions d'analystes aussi, des changements de recommandations.
Mardi, donc hier, Goldman Sachs est passé à l'achat et juge que BNP tiendra ses objectifs, que ce soit cette année ou en 2025. Ce qui n'est pas le cas dans le consensus. Le consensus est un peu en dessous. Et en fait, pourquoi? Alors, le gros truc qu'ils mettent en avant, c'est la BFI, la Banque de Financement et d'Investissement. Pour eux, c'est le moteur de croissance de BNP Paribas à court terme comme à moyen terme, grâce notamment aux métiers liés au marché actions dans lesquels BNP possède un éventail d'offres complet dans plein de régions. Juste pour donner un chiffre, pour eux, les revenus de la BFI de BNP Paribas, ils passeront de 16,5 milliards d'euros l'an passé à 18,7 milliards en 2026. C'est une croissance de plus de 6% par an. Donc voilà, la BFI tirera.
Oui. Et ça convainc le marché, le titre BNP Paribas sur le secteur bancaire français signe la plus forte hausse, plus 1,3%. Des trois grandes banques françaises, c'est celle qui aujourd'hui progresse le plus. Effectivement, beaucoup de changements de recommandations sur le secteur bancaire, une bataille d'analystes depuis le début de la semaine. Vous y consacrez cet article sur notre site BFM Bourse.